Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du conflit d'angles, de l'ordre dorique et de la géométrie euclidienne, perçue en opposition au chaos et à la mer de nos origines. Soyez sans crainte, ce ne sera pas trop ennuyeux ni trop long. Enfin, je l'espère, mais il m'est nécessaire de vous démontrer comment un phénomène académique qui relève de la géométrie pure peut s'immiscer dans mon travail. En effet, pour un artiste, paradoxalement, les choses les plus fastidieuses peuvent s'avérer être les plus fécondes. Je vais d'abord remonter dans le passé pour mieux vous faire comprendre mon intérêt pour la construction. Je suis né en mars 1945, alors que la guerre n'était pas encore achevée. La nuit de ma naissance à Donaueschingen, la maison voisine de la nôtre a été la cible d'une bombe et s'est effondrée sur elle-même. Ces briques désolidarisées et ainsi libérées m'ont par la suite, vers l'âge de 3, 4 ou 5 ans peut-être, servi de matériaux de construction pour édifier des petites maisons de plusieurs étages. Ce fut la première fois qu'à travers les briques, je me consacrais à la construction. Bien plus tard, dans les années 1970, après avoir lu l'épopée de Gilgamesh, je me suis intéressé à la civilisation mésopotamienne et, en ayant alors recours à divers jeux de rôle, j'ai tenté de sonder les vives impressions que cette épopée avait suscité en moi. J'ai commencé à réfléchir sur la postérité de cette civilisation. Les tablettes et l'écriture cunéiforme m'ont particulièrement fasciné, comme si celle-ci était née de la boue du Tigre et de l'Euphrate. Pour fabriquer ces signes, on enfonçait un coin dans la glaise molle, un matériau également utilisé pour façonner les briques. Comme s'il y avait une parenté secrète entre construire et écrire. Cette fascination se matérialisa avec l'emploi des briques, lesquelles continuèrent de m'intéresser longtemps. Elles représentent, en effet, une sorte d'écriture proche des inscriptions des cylindres en terre de Mésopotamie. Enregistre-t-elle les souvenirs de la même manière? En 1989, j'ai acheté une ancienne briqueterie dans l'Odenwald. J'y ai vécu et travaillé au cours des années suivantes. Lieu de convergence, elle matérialise pour moi l'étroite parenté cachée qui existe entre construire et habiter. Heidegger releva cette parenté de mots dans un texte intitulé « Bauen, Wohnen, Denken », ça veut dire « construire, habiter, penser », partant de la notion de « sein »,« être », et du mot en ancien allemand « Bauen », devenu « Bauen »,« Bauen », c'est « construire ». Bien plus tard, il en a déduit que le sens initial du mot « Bauen », qui est notamment habité, demeuré, séjourné, s'est perdu. D'où Heidegger conclut qu'à l'origine, construire et habiter devaient être considérés sur le même plan que l'existence humaine, comprise au sens de séjour de l'être humain sur Terre. Et que, de ce fait, sa signification intrinsèque, bauen, construire, signifierait également être parmi les choses. Je mesurai l'étendue de ce phénomène lors de mon voyage à travers l'Inde et la Chine. Sur la route de la soie se retrouve une région où Mao avait alors fait édifier tous les 20 km à peu près, des fabriques de briques destinées à la construction des routes. Ces briqueteries se déplaçaient au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour lesquels elles étaient mises en place. Dans ce mode de production, chaque usine est elle-même son propre matériau. Quand les briques destinées à un certain tronçon de route étaient cuites, le lieu de production était alors abandonné et ces briques chargées sur des camions. L'unité de production et sa production ne faisant qu'un, nous passions alternativement de briqueterie en fonctionnement à des vestiges de briqueterie. Ces fabriques me donnaient à voir divers aspects de la temporalité. Sur ces photos, les briques en terre sont alignées pour le séchage sur un sol légèrement ondulé. Certaines d'entre elles sont empilées en forme de murets qui s'apparentent au plan d'habitation en attente d'être construites. Par ailleurs, elles me font penser aux fouilles archéologiques à des villes mises au jour et dont il ne resterait que les murs de fondation. Leur conformation renvoyant dans un même mouvement au futur et au passé. Le long de la route de la soie, ce sont les briqueteries presque totalement ensablées qui m'avaient le plus impressionné. La configuration apparemment immuable de l'édifice ayant été transformée par le cycle alterné de production et d'exploitation. J'ai retrouvé ce même phénomène, à vrai dire banal, en Inde, alors de la visite d'une briqueterie. Je m'interrogeais sur cette technique tout à fait simple d'assemblage de briques pour la construction d'une maison, que celle-ci soit éphémère ou construite pour l'éternité. La construction semble apparemment facile. On superpose des briques les unes sur les autres, en les décalant d'une rangée à l'autre pour éviter les jointures linéaires le long du mur, ce qui poserait des problèmes de statique. La façon de procéder consiste à placer la brique suivante de sorte qu'elle ne recouvre qu'une partie de la brique précédente qui doit s'inscrire à l'angle droit et perpendiculairement au mur. On ne rencontrera aucune difficulté si la longueur d'une brique est de deux fois sa largeur. Mais comment faire si elle est plus longue ou plus courte? Cette question, apparemment simple, indique que, dès les débuts, il a fallu se soumettre à une technique stricte lors de l'édification des bâtiments. Parfois, une chose, un problème ou une image surgit inopinément dans le contexte le plus inattendu. Cela m'est arrivé alors que je réfléchissais à un fait aussi banal que les proportions d'une brique. J'ai alors compris que ce phénomène était de toute évidence lié au conflit d'angle de l'ordre dorique. Le conflit d'angle de l'ordre dorique résulte de l'antagonisme entre deux principes architecturaux liés à la construction des temples antiques. D'une part, la succession des triglyphes et des métopes de la frise du temple doit correspondre à la succession des colonnes. Dans l'idéal, à l'axe de chaque colonne et à chaque espace entre deux colonnes correspond un triglyphe. D'autre part, les extrémités de la frise doivent se terminer par un demi-glyphe. Or, ces deux ordres sont incompatibles si l'architrave, les triglyphes et les colonnes présentent les mêmes dimensions. Cela était encore possible, jadis, quand on construisait les temples en bois. Mais lorsque la pierre vint remplacer le bois dans l'architecture, les divers éléments constructifs ne pouvaient plus avoir les mêmes dimensions pour des raisons de statique. Le rythme des colonnes et l'alternance des triglyphes et des métopes ne pouvaient plus être dans un rapport harmonieux. Pour résoudre ce conflit, il fallait renoncer aux écarts réguliers, soit entre les colonnes, soit entre les triglyphes et les métopes. La solution la plus simple étant de conserver l'écart entre les deux premiers triglyphes et d'accepter ainsi d'avoir des métopes plus larges au bord de la frise. Une autre solution était d'élargir les demi-glyphes de sorte que toutes les métopes de la frise aient les mêmes dimensions. Le moyen mis en œuvre le plus fréquemment pour répondre au désir d'un rythme harmonieux entre glyphes et métopes consistait à réduire l'écart entre les deux premières colonnes. Cette solution est appelée contraction d'angle. Mais pourquoi cette réflexion sur le conflit d'angle de l'ordre dorique et sa mise en relation avec les prikétaries d'Inde et de Chine? Toute idée relevant de l'esthétique qui vient à l'esprit selon une certaine logique trouve souvent son explication a posteriori. Je sais d'expérience que chaque fois que je réussis à résoudre un problème esthétique avec l'œil, celui-ci trouve ensuite son explication logique. Or, nous voici réunis ici pour trouver des explications. En ce qui concerne la valeur d'un tableau, en l'occurrence une œuvre conceptuelle, il n'est nul besoin d'explication, mais cela nous distrait d'en trouver. On pourrait aussi dire que cela stimule notre réflexion. En allemand, le mot « unterhalten » a un double sens. Alors ça veut dire « distraire » et « soutenir ». Et le mot très proche, « aushalten » signifie « soutenir ». Il est en outre particulièrement stimulant de représenter le passage du visible au spirituel ou du regard à l'intellect. Ici, j'ai superposé la structure d'un temple grec sur une prikétarie, de façon à pouvoir expliciter ce qui se produit lors de la composition d'une image. Quand je fabrique une image à partir des vestiges d'une prikétarie, j'utilise la photo non pas en tant que trace de l'instant où j'ai appuyé sur le déclencheur de la caméra, mais parce que j'essaie de réaliser une composition avec le matériau reproduit sur la photo. À cet effet, je fais appel aux différentes strates culturelles que je ne saurais toutes nommer à réunir sous vos yeux, mais qui participent de cette composition. L'une d'elles correspond bien à la construction d'un temple dorique et à son conflit d'angle. Car nous cherchons toujours quelque chose qui se réfère à une entité supérieure, à une symétrie ou à sa suppression. Or, ces œuvres qui prétendent rompre avec tout cela et qui veulent abolir les proportions, en s'en remettant au hasard, témoignent d'un ardent désir de totalité, de monade. Les apparemment mauvais films de Warhol en sont un bon exemple avec leurs images apparemment sans composition et qui vivent du désir de qualité formelle. La valeur harmonique apportée par le rythme des corps de bâtiments se manifeste très clairement dans la conception de la Karl Marx Allee à Berlin. Construite dans les années 1950, cette avenue monumentale est une réponse à ce qui se faisait alors à Moscou, les fameuses constructions Beria. Or, un substrat du conflit d'angle du temple dorique se manifeste aussi dans cette architecture du classicisme socialiste. Ici, nous voyons également une succession d'unités semblables, de symétries, de répétitions qui peuvent être mises en rapport avec la succession des colonnes et la frise d'un temple dorique. Toute la partie inférieure de la façade formée par les colonnades du temple est pensée ici comme une surface. On y remarque néanmoins un désir de parallélisme harmonieux entre deux rangées de bâtiments. Le conflit d'angle de l'ordre dorique et la volonté d'un alignement régulier des éléments architectoniques se conditionnent mutuellement. Or, ce même désir d'harmonie se retrouve étonnamment dans l'architecture du classicisme socialiste. Il est pour moi le moins étrange qu'un problème apparaisse du fait de l'alternance de triglyphes et de métopes. Pourquoi les architectes anonymes de l'Antiquité n'ont-ils pas tout simplement renoncé aux triglyphes? Cela demeure un mystère. Nulle part, je n'ai pu trouver la justification, à croire qu'ils recherchaient le problème insoluble. Avez-vous constaté cela lorsque vous vous teniez debout devant l'un de ces temples? Oui, mais vous l'avez oublié. Vous n'avez pas vu qu'aux angles, les chapiteaux étaient plus près les uns des autres et que l'espace entre les colonnes variait d'un endroit à l'autre. Vous l'avez oublié parce que c'était beau. Le beau s'oublie, excepté l'arrière-goût qu'il nous laisse. On l'oublie, excepté ce petit résidu. Il m'est difficile de vous expliquer de manière discursive les idées qui me venaient à l'esprit lorsque j'associais l'architecture des presbytéries au conflit d'angle de l'ordre dorique. Le conflit d'angle de l'ordre dorique, de même que le processus d'oubli en seulement duré un peu plus longtemps que les fabriques de briques qui disparaissent à mesure qu'elles s'élèvent et auxquelles j'ai redonné vie en les photographiant. C'est probablement la notion d'éphémère qui m'a guidé lors de ces travaux, relier des éléments qui ne durent que le temps de leur réalisation pour disparaître à nouveau à quelque chose de moins éphémère. Englober l'utile, la briqueterie qui s'autodétruit au temple et au spirituel. L'année dernière, j'ai de nouveau voyagé en Inde et je me suis rendu sur les lieux des anciennes briqueteries, mais je ne les ai plus retrouvées. Elles étaient toutes protégées par des toits en tôle ondulée. Elles étaient devenues des semblants d'usines, avec les murs encore debout. Désormais, l'éphémère appartient au passé. Dans le travail, on se réfère à ceux qui, un jour, nous a impressionnés, à ce que nous a subjugués, inquiétés ou nous a laissés insatisfaits. On parle alors d'événements déterminants, d'événements clés. Clés parce qu'ils ont ouvert l'accès à des domaines mystérieux qui se trouvent en des lieux inexplorés. Pour moi, ce furent les briqueteries ou le château de Montsalvat. Je porterai à jamais en moi la musique de Wagner qui décrit en ce lieu magique et impénétrable du nom de Montsalvat. Un lieu duquel, dans le cas de Lohengrin, un messager a envoyé et doit rebrousser chemin sur Par Elsa, confondant son univers féodal bourgeois avec l'univers artistique et mythologique qu'incarne le Montsalvat, ne peut retenir sa langue. On pourrait dire qu'elle confond l'art avec la vie. J'ai toujours été médiocre en mathématiques, et cela me torturait, or ce qui me torturait alors me fascine aujourd'hui. Le nombre pi en fait partie. Longtemps, il a été impossible de calculer la surface du cercle. Archimède, le premier, a eu l'idée de tracer un hexagone dans un cercle. Il pouvait ainsi calculer le périmètre de l'hexagone qui correspondait approximativement à celui du cercle. C'est un fait qui m'a fasciné. Dans ce cas de figure, on s'appuie quelque chose qui se cache, qui permet, certes, de s'approcher, mais qui, plus on approche du but et plus on a la certitude de ne pouvoir l'atteindre. Cette distance infranchissable est le moteur de l'action. L'artiste est naturellement attiré par le nombre pi, car il est synonyme d'impossible, de ce quelque chose qui ne peut être mené à terme. La terre, la nature, ne s'engage que dans le possible. Jamais une abeille ne va au-delà de ses possibilités. La loi invisible de la terre, celle de la germination et de la disparition, respecte cela avec tempérance. La volonté seule contraint la terre à sortir du périmètre de ses possibilités pour la faire entrer dans le domaine de l'impossible. Cela peut se nommer art. Le nombre pi est une métaphore de l'art, parce qu'il est sans fin après la virgule, parce qu'il ne peut être défini avec précision, parce qu'il vous ôte le sommeil, j'espère, parce qu'il est un « comme si », nous utilisons l'expression « comme si nous pouvions calculer la surface du cercle ». Or, ce n'est qu'une construction provisoire qui représente une valeur approximative. Parce qu'il est un détour, parce qu'il est le vide entre deux segments d'un cercle. Parce qu'une zone pourrait disparaître dans l'infini, mais subsiste indifféremment qu'il y ait 10 ou 20 chiffres après la virgule. Dans le processus de création, nous le savons, seul le passage de la figuration à l'abstraction est intéressant. Pi est né de ce type de transition. Nous le savons mieux à présent. Pi fait un bond pour sortir du sensoriel et aller vers l'abstraction. Mais ce bond est sans conclusion car dans l'ombre pi, les chiffres après la virgule tendent vers l'infini. La différence tend vers un presque rien, puisqu'après le 100 000e chiffre après la virgule, l'espace n'existe presque plus. Il s'est évaporé. Il est devenu néant, mais un néant encore présent, car sans cet infime résidu, la différence serait également abolie. C'est la dialectique du néant. Pour que ce néant puisse encore être utilisé, il a besoin d'un support existant. Si un artiste renonce à ce balancement entre la mise en forme et les lois formelles, il devient un artiste abstrait. Souvenons-nous de Marcel Duchamp qui, à partir de 1928, se consacra presque exclusivement aux échecs pour se retirer du monde de l'art. Attitude qui poussa Joseph Beuys à réagir. Lors d'une émission télévisée, il mit en scène une célèbre action centré autour d'un disque où l'on pouvait entendre « Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet ». Le silence de Marcel Duchamp est surestimé. Ce n'était en aucun cas une provocation gratuite. Beuys se réclamait d'un travail sur la forme. La plus grande des abstractions, la question de la certitude ou de la vérité requiert une confrontation avec la forme. Même si nous savons que cette différence peut être abolie. Valéry exprime cela avec justesse dans une lettre à Paul Soudet. j'aurais essayé de faire voir que la pensée pure et la recherche de la vérité en soi ne peuvent jamais n'aspirer qu'à la découverte ou à la construction de quelque forme. Par le biais du conflit d'angle de l'ordre dorique, nous nous sommes approchés de la différence qui subsiste entre la conception d'une logique constructive et sa réalisation matérielle. Cette différence, cet écart, est le véritable lieu de l'art. Et c'est en géométrie que cette notion de différence est formulée avec la plus grande précision. Les mathématiques, et plus précisément la géométrie, nous permettent d'esquisser aujourd'hui la dimension constructive et la conception artistique dans le chaos des éléments. La mer qui s'oppose à la géométrie dans un mouvement, ses marées, les vagues, et que j'ai à maintes reprises tenté de ramener à un ordre géométrique. Sur ce tableau que j'ai peint en 2001, les lignes qui tracent les constellations descendent jusqu'au ras de l'eau et se poursuivent dans les profondeurs, comme si ces lignes avaient le pouvoir de contenir les bouillantes galaxies dans leur tracé ou bien de circonscrire le tumulte des vagues à l'ordre établi. Il n'y a pas si longtemps, je me suis de nouveau promené le long d'un rivage et, au bout de quelques pas, j'ai retrouvé le chemin familier que j'empruntais 2 ans auparavant. Il était 16h30, je savais que la nuit tomberait à 17h. Je revins à cet endroit où les galets couvrent l'estran et d'où l'on voit jaillir l'écume. J'écoutais le prodigieux bruit de la mer. Alors que je continuais de longer la côte à bonne distance de l'eau, à l'unisson, les vagues écumantes faisaient entendre une musique qui allait en flanc jusqu'au seuil de l'évanouissement, tel le bruissement de la forêt. Devant moi s'étalaient les magnifiques couleurs du crépuscule et les galets qui, sur les fonds sombres, se détachent dans les dernières lueurs du jour. Et puis, le gris nuit, cette couleur de la nuit, comme dans un nocturne de Edvard Munch. Après avoir marché sur la grève durant une vingtaine de minutes, j'eus soudain l'impression d'apercevoir des voies ferrées de la gare de l'Est, telles qu'elles apparaissent quand on les observe depuis le pont. Depuis ce pont, je revoyais les chambres d'hôtel qu'à travers le monde j'ai occupées, inscrivant leur géométrie dans le tumulte de la mer. Mes pensées allaient alors dans 2 directions, une vers l'organisation de ce tumulte et l'autre vers la dissolution de mon être nomade confronté à la rigueur du rectangle. Vous voyez ici diverses configurations de chambres qui seront très vite effacées par la mer. C'est pourquoi il m'arrive de les inscrire directement dans la mer. Cela fait une 40aine d'années que je dessine le plan des différentes chambres d'hôtel où je suis amené à séjourner. J'ai longtemps ignoré à quoi pourraient servir ces dessins minimalistes, mais je les ai faits. Souvent, en mettant de l'ordre dans mon atelier, je tombe sur eux comme il nous arrive de trouver des épaves sur la grève. Et je les ai retrouvés tandis que je commençais à préparer ce cours. J'ai alors songé que le remaniement des plans ainsi esquissés devait s'apparenter à l'élaboration par un artiste plasticien d'un cours pour le Collège de France. Dans un premier temps, j'ai superposé les des plans de chambres d'hôtel sur des photos de mer. À l'inverse de la photographie, le plan n'est évidemment pas la reproduction d'un objet, de même que le plan d'une région n'est pas un paysage. Il existe cependant une singulière et très étroite relation entre le lieu et le plan qu'on en trace. C'est une expérience que la plupart d'entre vous a certainement déjà faite en survolant des paysages familiers. Vu du ciel, le paysage se lit comme un plan, mais le souvenir des impressions sensorielles éprouvées lors de promenades dans ce paysage vient troubler notre perception. Nous faisons alterner entre la sensation d'une forme abstraite et les souvenirs d'un vécu concret. Ces plans de chambre sont des espaces vides. Aucun sentiment, aucune pensée n'y sont représentés. Mais qu'est-ce qui m'a amené à dessiner ces plans? J'aurais tout aussi bien pu demander à la direction de l'hôtel de me fournir le plan des chambres. Chaque hôtel possède certainement le plan masse de chaque pièce et, quoi qu'il en soit, j'aurais pu prendre le schéma des issues de secours que l'on trouve aux étages. D'ailleurs, le plan qu'ainsi je me serais procuré aurait été bien plus précis, je pense. Quand j'ai réalisé ces croquis, je n'avais pas de mètre pliant sur moi et je dus mesurer des distances avec les pas. J'ai malgré tout pensé ou espéré qu'un petit reste, une dose homéopathique d'un vécu potentiel pourrait se glisser dans le dessin. Invisible, certes, mais néanmoins ressemblant à ce petit quelque chose qui signale son passage dans un récipient vide, un résidu. Une information infime sur mon passage dans les lieux où j'ai pu ressentir quelques sentiments. Or, il ne reste pas grand-chose de ce vécu, plus rien à vrai dire. Cependant, en dépit de leur insuffisance, de leur imprécision décevante, de l'absence d'évocation d'un vécu, ces plans sont l'unique vérité qui subsiste de mon passage, et cela bien que l'ensemble des représentations, des descriptions de la chambre soit, d'entrée du jeu, faussée, puisqu'elles dépendent de mon émotion, de ma subjectivité. Un angle droit est imposé à la mer qui s'inscrit dans la grille. On a soudain un système de coordonnées appliquées sur l'illimité, l'infini, la mer en perpétuel mouvement. Il s'agit alors de tenter d'arrêter les vagues. Si l'on pose le plan de la chambre d'hôtel sur la mer, il se dessine une sorte de construction sur un support instable. Tout comme dans le poème d'Ingeborg Bachmann dans lequel la bohème se trouve au bord de la mer, les chambres d'hôtel se retrouvent soudain en pleine mer. Elles sont construites sur les vagues, non pas sur le sable de la plage, non, elles sont édifiées sur l'eau. Peut-on construire sur la mer ? C'est impossible en réalité. Ce travail sur la dématérialisation de l'œuvre s'exprime avec une extrême radicalité chez l'artiste Stanley Brown, dont les travaux témoignent de son obsession pour la géographie, les distances, les mesures et les directions. Dans le cadre d'une action, il a demandé à des passants dans une ville de lui tracer un chemin d'un point à l'autre, à un autre, dessin sur lequel il a apposé un tampon avec la mention « This way, Brown ». Disparaissant ainsi derrière ses schèmes, l'artiste s'économise l'effort de parcourir la distance. Pourtant, malgré leur objectivité, leur froideur informative, les cartes de géographie routière, en tant que lieu où se transcende l'histoire, permettent un accès inconscient mais direct à l'enfance. Mais quel est le lien avec les chambres d'hôtel? Celui, par exemple, qu'on n'y voit rien d'autre qu'un plan sans aucun repère sensoriel, émotionnel ou mythologique. Cela me fait penser au livre d'Henri Miller, Jour tranquille à Clichy. Alors qu'il étudie le plan de la capitale, certaines rues, certaines places font surgir en lui des sentiments bien qu'il ignore tout de ces endroits. Cela ne signifie-t-il pas que les informations, y compris les plus abstraites, ont une aura dont le pouvoir est de nous plonger dans un universel émotionnel? En ce qui me concerne, cette aura est le point névralgique entre la distance du vécu. Les voyages, mes séjours dans les chambres d'hôtel et le destin. Spatialité et temporalité, ces deux dimensions cohabitent dans les travaux de l'artiste japonais Onkawara. Parallèlement à ces date paintings entreprises en 1966 et sur lesquelles il ne peignait que la date du jour sur fond monochrome, il est l'auteur d'un travail entre autres intitulé I Went, qui consiste en une série de carnets de notes sur lesquels il dessine ses parcours quotidiens à l'encre rouge. Il y a dans le champ de l'art conceptuel séparation entre l'art et l'écrit, de même qu'entre l'art et le mouvement. Royaume de la dynamique visuelle, l'art conceptuel représente l'univers de l'expression mentale par excellence. Pour ma part, je sais seulement que j'ai dessiné ces plans de chambre d'hôtel et que cela m'a pris entre 5 minutes et 1 heure selon la taille de la pièce ou sa complexité. Ils n'ont pas surgi de nulle part à un moment donné et leur réalisation s'inscrit dans la durée de ma vie. Peut-être ai-je eu recours à ces plans pour trouver dans leur géométrie des certitudes, à l'instar des explorateurs de galaxies qui œuvrent sans aucune logique préétablie. Concernant les travaux de Onkawara, je présume, et cela en dépit de sa virtuosité, qu'il lui faut au moins 1 heure pour réaliser un de ses tableaux. Il ne s'est donc pas contenté d'utiliser l'existant comme un moment existant, il a réellement produit quelque chose. Cela poursuit sembler provoquant par son peu de contenu, car, à bien y regarder, il ne subsiste pour ainsi dire que la forme, alors que, fût-elle minimale, il est question d'une trace de vie. Cet exemple de création réalisée par des malades mentaux démontre que la géométrisation essentiel et incontournable est relatif à la notion de « au commencement ». Cette œuvre possède quelque chose de touchant, de maladroit, et indique, en dépit de sa forme abstraite, qu'elle agit comme un appel au secours. La géométrie fait le grand écart, car, à l'instar de l'art, elle est soumise à rude épreuve. En espérant renoncer à la matière, l'art souhaite la traverser pour, in fine, ne plus être que forme et proportion. La démarche de Sollewit consiste à coller systématiquement au processus d'abstraction. J'ai toujours apprécié Sollewit, qui a recouvert des salles entières de dessins géométriques. Il n'a pas dessiné des salles, il les a empliées de dessins. Ce faisant, il a dématérialisé les murs en les utilisant comme réceptacle de signes abstraits et colorés. Le contenu de son travail consistant en la dématérialisation des murs. Dans l'armée, se mettre en ordre de marche, en colonne, fait partie de l'instruction militaire de base. Des individus très différents sont éduqués afin de former un corps assujetti aux règlements propres aux formations militaires. Les hommes ainsi contraints à entrer dans le moule consistant à leur insu les plus violents des tableaux abstraits. Sous le Troisième Reich, une des représentations les plus spectaculaires fut le dôme de lumière que Albert Speer a mis en scène pour la première fois lors du congrès du parti en 1936. Speer parvint à créer un effet saisissant de faisceaux lumineux à l'aide de plus d'une centaine de projecteurs employés pour la défense aérienne. La lumière électrique, ainsi exploitée à l'instar d'un matériau de construction tendant à faire disparaître la masse architectonique, fut sans conteste une première de guerre. Avec le dôme de lumière, les nationaux-socialistes utilisaient la lumière non seulement à des fins d'éclairage, mais aussi comme moyen de création autonome pour générer un espace inédit, un espace de propagande. À notre insu, nous sommes constamment en quête de la forme, en inventant de nouvelles constellations en matière de choses célestes, en appliquant les principes de la géométrie aux proportions de l'éternel féminin ou à un groupe d'hommes alignés en ordre de marche dans le cadre d'exercices militaires. Les historiens d'art eux-mêmes cèdent à ce penchant, et cela bien que nombre d'entre eux soient être éloignés de l'art, quand ils reconstruisent les lignes de composition sur un tableau de maître ancien. À vrai dire, dans le cas présent, la géométrisation devient un procédé de déconstruction qui n'est pas en mesure de reproduire la dynamique du mouvement qui va de sa figuration à l'abstraction. J'ai déjà utilisé ce principe de géométrisation en tant qu'élément constructif dans certains de mes travaux. En préparant ce cours, l'idée m'est venue d'étudier les proportions quelques modèles féminins qui ont posé pour moi en les comparant selon la géométrie euclidienne puis selon la géométrie analytique. C'est un livre, alors il faut le tourner plus. Sur ces images, on inscrit la femme dans une forme, puis le processus s'inverse en une figure figurative. On laisse alors la femme se cristalliser. Souvenez-vous de la femme de Lot qui se figea en une colonne de sel. Dans le premier cas, on découvre quelque chose sous la chair, à savoir la forme géométrique. Dans le second cas, la forme est générée par la solidification du mou vivant. Nous avons donc recherché la forme dans une silhouette préexistante en laissant derrière nous la silhouette féminine afin qu'elle s'accomplisse dans l'abstraction. Et tout comme on peut sculpter la chair, les femmes nues et la volupté en recourant aux formes de la géométrie euclidienne, on peut aussi de nouveau rendre le verbe à la chair. Merci.